Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Attention, il est 8h38, ça n'a pas arrêté de débattre pendant la publicité.
C'était déchirant.
Alors qu'un jour, on enregistre ce qui se passe pendant la pub. On est avec Dominique Carlac, Pierre-René Lemas, Mathieu Pechberthier et Corinne Morisseau. On commence bien sûr, Laure, par la nouvelle règle, les nouvelles règles de l'assurance chômage.
Oui, puisque Caroline Morisseau, le ministère du Travail, a acté hier l'échec des partenaires sociaux, faute d'accord sur l'emploi des seniors. L'accord UNEDIC qui a été conclu en novembre dernier tombe à l'eau. Le gouvernement a décidé de reprendre la main. On a des pistes.
On a des pistes. Alors, déjà, il y a un certain nombre de pistes qui sont aujourd'hui écartées. L'idée, par exemple, de baisser le montant de l'indemnisation semble aujourd'hui totalement écartée. Marc Ferracci le disait encore tout à l'heure, on est sur des montants à peu près similaires par rapport aux autres pays. Il n'y a pas de raison de toucher à ça.
70%
donc,
à peu près
du, voilà, des salaires. Gabriel Attal a clairement dit que ce n'était pas sa préférence, donc celle-là, on la met de côté. Après, l'idée de réduire la durée d'indemnisation, c'est une piste qui était évoquée de manière récurrente, de passer de 18 mois d'indemnisation à 14 mois, voire 12 mois. Gabriel Attal a
On
est déjà passé de 24 à 18. Mais cette piste-là, elle semble aussi s'éloigner, même si elle n'est pas totalement refermée. Gabriel Attal a moins insisté sur cette piste-là. Et celle qui, aujourd'hui, semble vraiment tenir la corde, qui revient de manière récurrente, en tout cas...
C'est celle de Marc Ferracci.
C'est celle désormais de Gabriel Attal qui s'est rallié au point de vue de Marc Ferracci et qui veut durcir les conditions d'ouverture des droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour être indemnisé. Demain, on pourrait par exemple devoir travailler non plus 6, mais 8 mois sur les 24 derniers pour être indemnisé, ou alors toucher à la période de référence, c'est-à-dire qu'on devrait toujours travailler 6 mois, mais sur une période plus courte, d'un an par exemple, au lieu de 2 ans.
Dominique Carlac, est-ce que c'est une bonne piste celle-ci ?
En fait, la question de fond à se poser, c'est est-ce que la durée d'indemnisation, tout dépend de quand elle commence, mais est-ce que la durée d'indemnisation, elle influe sur la durée du chômage ?
La réponse de Ferracci, c'était non.
Sauf que certains économistes ont quand même constaté que dans les 3 derniers mois de votre indemnisation, c'est là que s'intensifie
la recherche.
C'est vrai. D'une part. En revanche, quand vous attendez trop longtemps, c'est là aussi où vous avez des offres à des salaires moins élevés. Donc, ce n'est pas un bon calcul, finalement, de rester longtemps en chômage, si tant est que ça soit un calcul. Mais parce qu'après, on prend ce qu'on trouve. Donc, plus on est dans une intensité de recherche d'emploi sur une durée courte, finalement, plus on a de chances, de retrouver un niveau de salaire élevé.
Donc vous êtes plutôt pour
élevé.
Baisser la durée.
Donc du coup, ce que disait Marc Ferracci n'est pas insensé. Quelqu'un qui est employable, si vous réduisez ses conditions d'éligibilité et sa durée d'indemnisation, fatalement, vous le mettez dans un circuit de travail où l'incitativité à travailler est plus forte que la désincitation au travail.
Mais il disait aussi que les précédentes réformes avaient montré que quand on exigeait davantage de mois de cotisation, quand on était passé de 4 à 6, la durée moyenne des contrats de travail avait augmenté.
Oui,
c'est vrai, Caroline, ça ?
Oui, bien sûr. Ça a un effet. Et puis, c'est vraiment la mesure, durcir les conditions d'ouverture, c'est la mesure
immédiate,
la plus rapide. Si on baisse la durée d'indemnisation, par définition, pour que ça produise des effets, il faut attendre que le chômeur soit en bout de course.
Soit à nouveau en activité.
Pierre-René.
Franchement, les analystes économico-comportementalistes qui permettent de savoir ce que le chômeur moyen va faire si on le traite mal, m'ont toujours laissé sceptique. Et d'ailleurs, si on regarde, on est à quoi là ? Ça va être la quatrième réforme
On a essayé de compter ce matin avec Caroline, on a eu du mal.
Deux réformes et 5 tours de vis.
Voilà, 5 tours de vis et 4 réformes. Voilà. Alors, il y en a qu'une qui était un peu fondée sur un raisonnement, pas uniquement faire des économies. Il y en avait une, c'était de copier les Canadiens avec le système contracyclique. Ça, le chômage baisse.
Ça s'est fait.
Alors, non, mais ça s'est fait, ça devait être fait pour solde de tout compte. Évidemment, il n'y a pas eu d'évaluation de ça. Forcément, ça date d'un an. Donc, il n'y a pas une vraie évaluation de tout ça. Donc là, on redonne un tour de vis, donc on va inventer des tas de prétextes. L'objectif, en réalité, n'est pas du tout d'améliorer les conditions d'employabilité des chômeurs qui sont des feignants, c'est bien connu, et qui ne veulent pas reprendre le travail parce qu'ils préfèrent toucher de grasses indemnités. Non, c'est de faire des économies. Et la mesure que prônait M. Ferracci tout à l'heure, c'est celle qui permet les économies le plus vite.
Il le dit d'ailleurs.
Voilà, donc il le dit, c'est la vraie raison, il n'y en a pas d'autre. Je trouve ça assez consternant, puisque globalement, si on peut dire comme ça, tout le monde a l'air d'oublier que la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés par l'UNEDIC. Donc la question
est
de savoir.
Ils sont sortis du système où ils n'ont pas suffi de cotiser sur
le droit. Le système n'est pas incitatif pour des gens qui, par définition, ne sont pas indemnisés. Ça n'a pas de sens. Donc est-ce que la question globale n'est pas celle de savoir comment on s'attaque à la situation de ces gens qui aujourd'hui sont enquistés dans le chômage et ne touchent rien, plutôt que de savoir si on va augmenter leur nombre, le nombre de ceux qui vont toucher de moins en moins, pour essayer d'inciter les autres à aller au travail. Je ne crois pas du tout au mécanisme. Et d'ailleurs, les économistes sont en désaccord les uns les autres. Donc, ce que je dis là est contestable. Mais je ne crois absolument pas à cette espèce de levier financier qui conduirait l'ouvrier chômeur à se dire « Mon Dieu, je vais me remettre à travailler. »
Alors, Dominique.
Alors, en fait, le point de vue budgétaire est très important dans cette affaire, en effet. C'est qu'on cherche, il manque des sous dans les caisses de l'État, donc on cherche où on peut faire des économies, et là, on a un sujet devant nous. La réalité, c'est que ce qu'on cherche, c'est le plein emploi, en réalité. Quand on traite le problème du chômage, on traite aussi économiquement la recherche de plein emploi. Donc, il y a deux façons de l'aborder. C'est soit on s'attaque aux chômeurs, en effet, soit on s'attaque à renforcer l'économie. Donc, même si nous, côté MEDEF, on dit « cette réforme est envisageable », c'est ce qu'a dit notre président Patrick Martin. Ouais. En réalité, nous, ce qui nous importe le plus, c'est comment on restaure de l'activité économique porteuse pour pouvoir avoir de l'emploi.
Et d'ailleurs, le précédent accord de novembre permettait de baisser de 0,45%.
0,05%.
Ah, pardon,
0,05%.
Et donc, du coup, là, ça permettait aux entreprises de retrouver un peu de compétitivité.
C'est exactement ça. Nous, ce qu'on préfère, c'est aller sur des mesures qui favorisent, donc cette fameuse politique de l'offre, qui favorise le développement d'activités économiques, qui améliore la compétitivité des entreprises, et ce faisant,
et là, vous avez
qui
vu que même Pierre René est d'accord là-dessus.
Non, mais évidemment que je suis d'accord là-dessus. La vraie difficulté, elle est... ça renvoie à la politique globale du gouvernement par rapport aux partenaires sociaux. Soit on fait confiance globalement aux partenaires sociaux, à leur capacité de se mettre d'accord sur des solutions raisonnables. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce qui s'est fait... ce qui s'est fait jusqu'il y a 5 ans, quoi, en gros. Soit on n'a pas confiance. Et du coup, quand on dit l'État reprend la main, c'est quand même une gifle aux partenaires sociaux. Ça veut dire vous n'êtes pas capable de trouver une solution entre vous raisonnable.
Sur l'emploi des seniors, ils sont pas parvenus.
Alors sur l'emploi des seniors, ils sont pas si loin. Ils sont pas si loin en réalité sur l'emploi des seniors.
En effet,
il restait la définition sur laquelle le patronat voulait pas trop s'engager, mais je pense qu'on aurait basculé de savoir ce que veut dire améliorer l'employabilité des seniors. Voilà. Et on n'était pas loin.
Juste là-dessus, parce qu'il faut qu'on enchaîne dans nos sujets. Juste Dominique, on aurait dû laisser les partenaires sociaux finir là leurs négociations. Ah. On a cassé trop tôt.
On n'était pas loin. En fait, ça devait être à la limite technique. Les ajustements qu'il fallait terminer, c'était plus politique.
C'est vrai, Caroline, c'était technique.
Ils ont quand même passé
notre juge de paix, Caroline
Morisseau. 48 heures dans la dernière ligne droite pour conclure que finalement, ils n'étaient pas capables de s'entendre.
Alors,
entre l'accord inédit de novembre dernier et cette négociation sur les seniors, en gros, ils viennent quand même de passer plus d'un an à négocier pour rien, quoi. Donc, ils sont eux-mêmes tirés une balle dans le pied, quand même, non ?
Et on était vraiment sur le point d'aboutir.
Oui, c'est ce que j'entends, moi.
Et franchement, ça n'a pas abouti.
On a encore deux gros sujets si on veut pouvoir parler d'M6 et puis de Samsung et de la SNCF, puisqu'on a quand même ces deux actus qui percutent ce matin à la SNCF. Un pas de grève pour les ponts de mai. Il y a eu un accord sur les fins de carrière qui va permettre d'être payé à 75% quand on a arrêté de travailler. Et de l'autre côté, chez Samsung, on ne va pas expérimenter du tout la semaine de 4 jours, mais plutôt celle de 6 jours. Léo Dumas, vous explique tout.
Avec cette journée de travail en plus pour les managers, l'objectif est de passer en revue les stratégies commerciales et de les ajuster aux besoins pour préserver les résultats. Car en 2023, le conglomérat a déçu et surtout, le pessimisme règne en 2024. Samsung s'inquiète de la dépréciation du won coréen et des risques géopolitiques. Il s'agit donc de diffuser un sentiment de crise selon des témoignages de cadres dans la presse. Plusieurs divisions sont concernées depuis le début de l'année et le dispositif est en train de s'étendre aux autres unités. Mais attention, il n'y aura en théorie pas de compensation financière pour cette sixième journée de travail, car contractuellement, les dirigeants de Samsung sont embauchés avec un statut d'employeur et non d'employé. Le groupe n'est d'ailleurs pas le seul à appliquer ce nouveau rythme. Le géant SK, autre conglomérat et principal concurrent de Samsung sur les puces, réunit aussi ses cadres un samedi sur deux depuis le mois de janvier.
Il va falloir choisir votre camp. On est binaire sur Good Morning Business. Donc Samsung ou SNCF, c'est un mot chacun. Caroline.
SNCF.
Mathieu.
Non, je ne choisis ni l'un ni l'autre, en milieu.
Ah, c'est pas mal ça. Pierre-René.
Non, moi je choisis SNCF.
Ni l'un ni l'autre.
Dominique.
Ni l'un ni l'autre, bien au contraire.
J'adore.
Non, alors, Mathieu.
Non, mais la SNCF, c'est pas non plus représentatif de tout ce qui se passe en France.
Non, c'est deux extrêmes.
Pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail. Il y a quand même beaucoup de travailleurs non qualifiés, dits non qualifiés en tout cas en France, donc en Europe. Qui cumulent les jobs, les petits jobs, et qui aboutissent peu ou prou à ce qui se passe en Corée. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de. La SNCF est un extrême.
Oui, bien sûr.
Alors, Pierre-René, pourquoi est-ce que vous défendez l'accord qui va quand même coûter beaucoup d'argent ?
Parce que c'est un accord. Moi, ce que je défends, c'est l'accord entre partenaires sociaux.
La méthode.
C'est la méthode. C'est plus que le fond. Évidemment.
Mais c'est un accord sous contrainte.
C'est contestable.
Oui, c'est ça.
Tiens,
elle a raison, alors c'est sous contrainte quand même. C'est sous contrainte de menacer, de bloquer les JO.
Oui, mais ça, ça s'appelle la négociation entre partenaires sociaux. Utilisent l'arme de la grève, grève.
Mais, non, mais attendez, dans un cas, c'est un monopole quand même. La SNCF.
Ça, c'est le vrai sujet.
Le monopole de la SNCF, c'est scandaleux. Je défends la méthode de l'accord. Ceci étant, Samsung, c'est très intéressant. Voilà une idée pour le gouvernement. Dire que désormais, les cadres seront dans le statut d'employeurs. Voilà, vous voyez, ça va sortir beaucoup de cadres du chômage, ça va en faire des employeurs. C'est la bonne piste, vous trouvez ?
Alors attendez, parce que là, il y a de l'autre côté du poste de radio, il y a Wilfried Galland qui est très énervé par vous, par Pierre-René. Il me dit, l'accord fin de carrière à la SNCF coûtera 100 millions d'euros par an et pas de garantie de paix sociale puisqu'on a déjà un préavis pour le 18 mai pour sécuriser la prime JO. C'est pas un bon accord, ça ?
Alors s'il n'y a pas de garantie de paix sociale, c'est pas un accord.
Ah ! Bon, ben voilà, voyez.
Dominique.
Moi, je suis toujours pour la négociation. Je ne vais pas dire le contraire de mon voisin. Après, voilà, il y a un contexte exceptionnel. Il y a les Jeux Olympiques. On veut donner une image exemplaire de notre pays. On veut que ça fonctionne. Donc, ça discute. Ça discute. Ouais. Alors, quelle image, en effet.
Mais on efface quand même une réforme des retraites pour certains salariés. C'est quand même injuste.
On a quand même une entreprise qui fonctionne avec un système qui est un monopole public. Ouais. Qui n'a jamais été remis en cause, qui n'arrive pas à être remis en cause depuis maintenant 10 ans, qui fonctionne avec des moyens commerciaux, en tout cas d'une entreprise privée.
Enfin, on en sort.
En appuyant sur le monopole. On en sort de manière très, très, très.
Vous envoyez des gros concurrents aujourd'hui
Les accords européens font qu'on est en train d'en sortir. Non, mais à nouveau.
Avec des pratiques commerciales.
Évidemment que les syndicats de la SNCF ont profité de l'occasion.
Ah, merci Pierre-René.
Voilà. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer à RATP maintenant.
Sûrement la même chose, a priori. Ouais. Allez, on parle du dossier M6. C'est votre dossier, Mathieu Pechberti. Nicolas Taverneau lâche les rênes d'M6 après 37 ans à la tête du groupe. Bon, visiblement, il ne va pas prendre sa retraite tout de suite. Il pourrait y avoir des pistes pour M6, pour une vente d'M6. Pourtant, on croyait que c'était tout simplement pas possible.
Oui, ça c'est compliqué, parce que l'avenir d'M6 est quand même très lié à la fameuse loi sur l'audiovisuel, la loi de 86 que Pierre-René Lemas connaît un petit peu, et que Nicolas Taverneau essaye de changer depuis maintenant 2 ans. Il fait le siège de l'Élysée tous les mois pour essayer de faire changer cette loi.
C'est-à-dire de permettre à l'actionnaire, c'est-à-dire Bertelsmann, de vendre sans attendre la fin de la concession.
Voilà, Bertelsmann a renouvelé la fréquence d'M6 en 2023, l'année dernière, il y a tout juste un an, et la loi l'oblige, enfin lui interdit, pardon, de revendre M6 avant 5 ans, donc 2028, sauf que les Allemands de Bertelsmann n'ont qu'une envie, c'est de vendre, et ça on le sait depuis maintenant.
À qui pourrait vendre Mathieu Pechberti?
À Rodolphe Saadé, propriétaire de CMA CGM, futur actionnaire de BFM Business.
Donc
ça c'est dit.
Ah bah voilà, il y a l'histoire des 8%.
Il y a deux choses. Donc il y a ce délai.
C'est ça, c'est 8-10%.
Il y a ce délai de 5 ans d'interdiction de revente que Nicolas Taverneau et Bertelsmann essayent de raccourcir, et ils vont essayer d'injecter ça dans une loi portée par le sénateur Lafon,
la fameuse loi sur l'audiovisuel,
voilà,
qui permet de créer la holding de France Télé.
Moi, j'aimerais bien entendre ce que pense Monsieur Lemas là-dessus. Non, mais sur cette grande loi de l'audiovisuel public, que Madame Abdoulmalak ne voulait pas mettre en œuvre quand elle était aux manettes, que Madame Dati maintenant on trouve formidable.
C'est la loi Riester aussi.
Et que quand on entend Madame Roselyne Bachelot, et on ne sait pas trop à quoi ça sert.
Alors, avant qu'on aille sur les 8%,
sinon à insérer des amendements pour le secteur privé.
Pierre-René.
Ah non, mais ça, moi, je suis complètement d'accord. La loi recréant l'ORTF, qui est quand même une idée étrange, ne sert à ce stade qu'à introduire des amendements.
De manière positive, on dit la BBC. C'est plus chic.
Ouais, c'est plus chic.
Oui, mais nous, on a des traditions historiques en France. Et d'ailleurs, avant l'ORTF, il y avait la RTF. C'est un modèle aussi que le gouvernement pourrait inspirer le gouvernement, je sais pas. Non, mais bien sûr, ça va servir à mettre un certain nombre d'amendements. Que la loi de 86 est vieillie, c'est évident. Mm. Donc, je sais pas ce que va proposer Monsieur Lafont, mais qu'il y ait des accommodements, des modifications, des adaptations, franchement, ça me paraît, assez utile.
Oui, qu'il y ait une convergence d'élus, LR, certains de la majorité.
Alors, juste quand même, parce qu'on a évoqué le sujet, et c'est vrai que c'est intéressant, ce que Dominique l'a dit, il y a une autre piste, c'est de faire baisser l'audience d'M6, c'est quand même un paradoxe, pour pouvoir vendre et passer sous les 8%.
Ouais. Si on passe sous les 8%,
ça, c'est la deuxième petite mesure qui est quand même moins importante, celle dont on vient de parler, c'est vraiment la grande mesure. Mais effectivement, il y a une petite disposition qu'on a repérée dans cette loi de 86, qui est que un actionnaire ne peut pas détenir plus de 49% d'une chaîne, en l'occurrence M6, quand celle-ci a plus de 8% d'audience.
Ouais.
Donc vous êtes tanké, limité, plafonné à 49%. Ce qui pose certains problèmes de financement, enfin ça c'est pas très grave. Sauf que M6 a une audience qui baisse depuis maintenant un peu plus d'un an, on était à 8,5, on tangentait les 9 quelques années, puis là on atterrit à 8,1 et il se murmure chez M6, dans le petit Paris des médias, que
comme
M6 aurait un peu serré les boulons sur les investissements pour faire atterrir gentiment l'audience sous la barre des 8. Bon, si ça descendait à 7,9, en fait il n'y a pas de jurisprudence. Non. L'ARCOM, on aura posé la question, c'est silence radio, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, même si ça arrivait, même si Bertelsmann pouvait prendre le contrôle, ça serait uniquement pour faire une pirouette pour revendre. Bon,
pour
c'est pas le
cher
du sujet, mais c'est pour montrer.
Je sens bien le projet stratégique.
Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est aussi pour montrer.
Non,
mais
c'est pour vendre.
C'est aussi pour montrer, quand même, depuis une dizaine d'années, que cette loi de 86, tout le monde sait qu'il faut la nettoyer et personne n'ose le faire.
Allez, c'est terminé. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin.